En cette période de crise sanitaire, tout le monde a constaté que la nature avait repris ses droits dans le milieu urbain, et notamment en période de confinement. Beaucoup d'associations qui défendent l'environnement et la nature se sont largement exprimées à ce sujet dans les médias. Et je vous propose donc un entretien avec Jacqueline Istas, secrétaire générale de Nord Nature Environnement, et qui s'occupe également de la gestion de l'antenne Nord Nature Arras, pour évoquer les objectifs et actions de l'association et de la fédération. On parlera aussi avec elle de cette crise sanitaire et de ses conséquences sur la faune et la flore dans le milieu urbain. Jacqueline Istas, on va parler un petit peu de votre association, hein, Nord Environnement, qui ça fait presque 41 ans maintenant qu'elle existe, hein, c'est bien ça, c'est en...
Plus de 40 ans.
Ouais, c'est ça, donc c'était bien, presque un anniversaire l'année passée en fait, en 2020.
Effectivement, nous avons célébré son anniversaire récemment.
Alors, donc, Nord Nature Environnement, alors, brièvement, est-ce qu'on peut faire un petit résumé de l'histoire ? Comment elle est née, cette association ?
Ah mais attendez, vous parlez de la fédération ?
Oui, cette fédération, pardon.
La fédération. La fédération est née à l'initiative d'un groupe de scientifiques de l'Université de Lille qui s'inquiétait de la dégradation de la nature en particulier, et de l'environnement en général.
Ouais, c'était donc en 1970, là, à ce moment-là, on ne parlait pas vraiment d'écologie. C'était un peu tabou, alors on en parlait, mais en sous-main.
Oui, enfin, ils en ont parlé ouvertement, bien sûr, mais c'est vrai qu'ils n'abordaient pas tous les thèmes que nous avons été amenés à aborder maintenant.
Votre antenne d'Arras est Nord Nature Environnement, hein, donc qu'est-ce qu'on y fait exactement ?
Alors, elle s'appelle Nord Nature Environnement est la fédération régionale, ouais. Et notre association locale s'appelle Nord Nature Arras.
Oui, mais les deux sont liés, donc forcément.
Les deux sont liés.
Qu'est-ce qu'on y fait exactement dans cette association ?
Beaucoup d'informations. D'ailleurs, dans les débuts, à sa création, c'était une information nouvelle pour une bonne partie de la population, car on entendait peu parler d'écologie à l'époque, il y a une quarantaine d'années. Mais maintenant encore, nous continuons à donner des informations, souvent selon l'actualité, selon des événements d'actualité. Et nous organisons en temps normal des conférences publiques. Nous faisons venir des conférenciers, quelquefois d'autres régions, mais par exemple François Veillerette, président de Génération Future, qui nous a fait une conférence sur les pesticides. Nous avons, en somme, selon l'actualité, nous abordons à peu près tous les thèmes, énergie, nature, milieux semi-naturels comme les forêts, etc. Le tout a lieu à la Maison des Sociétés, et malheureusement, depuis la crise sanitaire, nous avons stoppé ces réunions publiques pour ne pas mettre en danger les personnes intéressées qui viendraient.
Ouais, donc ça, on en reparlera évidemment de cette crise sanitaire. Donc l'association, évidemment, c'est l'objectif principal, c'est surtout de travailler sur la connaissance, mais aussi la protection de la nature et de l'environnement. Alors par environnement, évidemment, on peut y mettre qualité de l'air, les marées éventuellement, les restrictions de l'eau, comment tout ça se gère, et puis aussi des prévention éventuellement sur la pollution et même aussi les pollens en période printanière. Comment vous organisez-vous ? Alors, mis à part les conférences, est-ce que aussi, parce qu'il y a plein d'associations qui sont affiliées à votre fédération, on va dire, on peut citer par exemple le GON, hein, qui est le groupe ornithologiste du Nord. Ensuite, le GEDAM également qui intervient.
Oui, alors, dans la région de Montreuil, mais qui est une très ancienne association affiliée à Nord Nature Environnement, voilà.
Alors, il y a pas mal de choses également qui sont en train de se passer, notamment cette action du collectif Non à Tropicalia, cette espèce de serre immense, tropicale, et l'une des plus grandes serres d'Europe qui est prévue normalement. Quand vous avez appris justement ce qui allait se passer, comment a réagi la Fédération et aussi Nord Nature Arras ?
Nous nous y opposons. Et en ce qui concerne Nord Nature Arras, par exemple, nous nous y sommes opposés en principe, mais lorsque les opposants locaux ont organisé à Renduflier, près de Berck, des manifestations contre ce projet démentiel. Des membres de Nord Nature Arras, en particulier deux membres de notre bureau, Georges Sélico et Laurent Suclier, sont allés représenter notre association.
On va parler maintenant de l'environnement et de la nature. On en parlait tout à l'heure, on a connu une période de crise sanitaire et de confinement où l'humain, on va dire, a été presque obligé de rester chez lui. Comment vous, Nord Nature Arras et aussi la Fédération, comment vous avez constaté justement peut-être, le seul peut-être point positif de cette crise, c'est le retour au monde sauvage. On sentait que l'environnement et le sauvage reprenaient un peu ses droits. On a même constaté, par exemple, sur Arras, sur la Grand Place, où il n'y avait plus personne, on a vu des canards se balader en plein milieu de la Grand Place, alors que généralement, ils sont plutôt du côté de la Scarpe. Est-ce que vous, à votre niveau, vous avez aussi constaté que l'environnement et le monde sauvage revenaient un petit peu en milieu urbain ?
Enfin là, je pense qu'ils sont revenus spontanément, par eux-mêmes. Mmh. Mais c'est assez difficile. La population ne distingue pas toujours très bien ce qui est sauvage, ce qui est vraiment naturel, de ce qui est semi-naturel, c'est-à-dire la verdure plantée par l'homme. De toute façon, à chaque fois que des hommes plantent des arbres, c'est une bonne chose. Il y a deux aspects. Il y a l'aspect nature, il y a l'aspect environnement. Alors, dans l'environnement, justement, nous évoquions le problème des pollutions. Un sujet sur lequel nous sommes souvent intervenus, c'est le problème de la circulation routière. Circulation routière des automobiles et circulation routière des poids lourds. En ce qui concerne Arras, nous avons, il y a fort longtemps, il y a plusieurs décennies déjà, insisté pour qu'on aménage des pistes cyclables. Parce qu'une des raisons pour lesquelles un grand nombre de personnes ne prennent pas leur vélo, alors que le vélo est, avec la marche, un mode de transport non polluant. La raison, c'est le manque de sécurité quand des voitures, et à plus forte raison, des camions, passent tout près du cycliste. Partout où ce serait possible, aménager des pistes cyclables nettement séparées de la chaussée et interdire de fait la présence de poids lourds et de voitures sur ces pistes cyclables. Nous incitons aussi beaucoup ceux qui le peuvent à marcher.
C'est là où je voulais en venir. Parce que sur Arras, maintenant, une démocratisation de la piétonisation du centre-ville d'Arras, ça vous fait plaisir finalement, cette piétonisation.
La piétonisation est une avancée. Ce qui serait souhaitable, bien sûr, c'est que les personnes aient la possibilité le plus possible d'éviter de prendre leur voiture. Mais alors pour ça, il faut donc des itinéraires piétons sécurisés. Il faudrait aussi des transports collectifs qui soient plus attirants. Parce qu'on comprend très bien que des personnes qui habitent la périphérie d'Arras, la communauté urbaine, mais des communes périphériques, que ces personnes n'aient pas toujours la force physique de pouvoir venir à pied dans le centre d'Arras. Or, les transports en commun sont malheureusement insuffisants de par leur fréquence.
Oui, il y a un exemple typique. On a une étudiante qui est à l'université d'Artois, qui habite dans l'Avesnois, un peu dans la campagne. Et quand il y a en période de crise sanitaire, beaucoup de transports en commun, comme les bus et les trains, et la moitié était supprimée puisqu'il y avait moins de mouvement, moins de circulation pendant le confinement. Et donc, elle devait prendre un bus à 8h du matin, même si elle n'avait qu'un cours à 17h, parce qu'il n'y en avait pas d'autres. Ça, c'est un exemple typique. Donc, il faudrait aussi une démocratisation des transports en commun pour qu'il y en ait plus, justement, qui fassent le lien entre le milieu rural et le milieu urbain.
Voilà. Mais quand on parle, d'ailleurs, démocratisation, c'est un terme assez flou.
Oui, mais non, je me suis un peu trompé.
Certains pensent gratuité.
Ouais.
Je crois que pour éviter la prolifération des voitures, ce n'est pas la gratuité qui est le plus important, parce qu'une voiture revient bien plus cher que l'utilisation actuelle des transports en commun.
Non, c'est la multiplication,
mais
en fait.
C'est une question de temps, avant, de temps et de fréquence. Quand une personne sort de son travail et doit attendre ne serait-ce qu'une demi-heure le passage du premier bus, eh bien, on comprend qu'elle soit incitée à prendre sa voiture.
Pour revenir un petit peu au monde sauvage, est-ce que ça éveille maintenant, est-ce que cette période de crise sanitaire dans laquelle on est passé, et ça va encore durer, est-ce qu'il y a peut-être une prise de conscience aussi de l'homme au milieu de la nature qui fait que finalement, elle le regarde d'un œil autrement?
Je sais pas. On va voir. Je pense qu'il y a une prise de conscience générale nettement plus forte qu'il y a 30 ou 40 ans.
Mais en période de crise sanitaire, on y revient, on a peut-être vu la nature autrement. Avant, on n'y faisait peut-être pas attention, mais on entendait les oiseaux. Les voitures ne circulaient plus. On entendait la vie de la nature qui reprenait un petit peu. Et ça, c'est intéressant quand même, parce que du coup, on prend conscience, mais oui, il y a des oiseaux en centre-ville et on les oublie, et on arrivait même à différencier les différents cris d'oiseaux, parce que, alors que dans le flou habituel de la vie de tous les jours, on n'y fait pas gaffe à ces oiseaux.
Oui, c'est juste.
Un mot peut-être sur Arras, qu'est-ce que vous pensez un peu de la qualité, je pense au bord de Scarpe, par exemple, la qualité de l'eau et de l'environnement, parce que depuis un petit moment, on voit... Il y a des hérons cendrés, alors qu'avant on ne les voyait pas. Il y a maintenant un couple de cormorans qui logent pas loin de la friche Tricard. Il y a une biodiversité, on va dire, dans le milieu aquatique. Il y a des foulques, il y a des poules d'eau. Est-ce que la qualité est bonne sur Arras au niveau de l'environnement?
Écoutez, ce n'est pas parfait.
Oui, bien sûr. Il y a toujours mieux à faire, c'est sûr, oui.
Oui, ce n'est pas parfait. Là, je pense qu'il vaut mieux questionner au cas par cas l'agence de l'eau. À propos des oiseaux, quels qu'ils soient, il serait bon de faire savoir à la population qu'il ne faut pas donner du pain. Personnellement, j'habite à Dainville. Et malheureusement, bien que la maire de Dainville ait incité dans un de ses bulletins à ne pas donner de pain aux canards, peut-être certaines personnes l'ont-elles oublié. Et puis, il y a aussi des personnes extérieures à la commune qui viennent dans le parc de Dainville, parce qu'il est très, très agréable, très attractif, ce parc. Mais ce qu'il faut savoir, de toute façon, c'est que qu'il s'agisse des canards ou des petits oiseaux, c'est mauvais pour leur organisme.
Oui, oui.
Ce qu'il leur faut, ce sont des grains. Dans la nature, ce sont des grains qu'ils mangent.
Ouais, c'est très mauvais pour leur organisme, ça les rend malades et en plus ça pollue leur environnement aquatique.
Oui, voilà.
Alors pour terminer, une autre question qui me vient aussi à l'esprit, il y a donc pas loin d'ici un projet de méthanisation. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ?
La méthanisation est une des solutions du mix énergétique, je dis bien le mix, qui pourrait se substituer avantageusement au nucléaire. Et en tout cas, de ne pas faire courir les risques nucléaires. Bon, ce qu'il y a, pour ne pas indisposer la population, il faudrait éviter de placer dans un même secteur plusieurs méthaniseurs. Il vaudrait mieux disperser les méthaniseurs, ne pas tout mettre au même endroit. Mais sinon, en soi, la méthanisation est une bonne chose.
On peut rappeler peut-être ce que c'est que la méthanisation, c'est quoi exactement ce principe ?
Eh bien, c'est ce qui permet de fournir de l'énergie, enfin un gaz. C'est une solution pour régler le problème des déchets. Ce qu'il y a, c'est que bien sûr, actuellement, puisque les projets concernent le même secteur, cela pourra entraîner des passages de camions concentré sur ce secteur, et on comprend que les habitants soient indisposés par ce projet. Si on dispersait les méthaniseurs, il ne devrait pas y avoir de problème. Et rappelez tout de même qu'une centrale nucléaire, même si elle est très éloignée, même si elle se trouve, par exemple, sur notre littoral, cette centrale est bien plus dangereuse pour nous parce qu'il pourrait y arriver un accident et la pollution radioactive pourrait venir jusqu'à Arras.
Vous pensez à celle de Gravelines ?
Je pense à celle de Gravelines.
C'était un entretien avec Jacqueline Istas, secrétaire générale de Nord Nature Environnement et membre de Nord Nature Arras. Info 30, c'est terminé pour aujourd'hui. Prochain rendez-vous avec votre magazine d'info locale dès demain, 7h30, 12h30 et 18h.